Tome 2, c'est la laïcité à l'œuvre. La laïcité au quotidien. Alors là, bien entendu, nous repartons sur les valeurs, sur les fondements. La laïcité est une notion complexe, évolutive dans le temps et polymorphe dans ses applications. Donc, il nous semble utile, dans un premier temps, d'approfondir ce qu'elle est en tant qu'ensemble de valeurs, respect de la liberté de penser, indépendance de l'État vis-à-vis de tout dogme religieux. Nous revenons là-dessus. Et c'est notre section 1, la laïcité au service d'un idéal universaliste. Nous rappelons, bien sûr, un principe constitutionnel, liberté, égalité, fraternité, avec des définitions de Guy Coq sur la laïcité, un principe universel, de Guy Carcassonne. Bon, je reviens pas sur tous ces textes fondamentaux au service de l'ambition universaliste des droits de l'homme, qui ont été cités hier par Martine Cerf. Mais une section 2 très importante de notre tome, et c'est d'analyser l'état de la législation laïque en France actuellement. Donc, bien sûr, nous commençons par cette distinction centrale espace public, domaine public et espace privé. Ensuite, la laïcité de l'État, ça peut être, mais là nous pouvons revenir en arrière, par exemple l'abbé Grégoire, unifier la langue, entreprise digne du peuple français. Bien sûr, il y a débat à l'heure actuelle avec les chartes, la charte des langues, hein. Ça peut être la laïcité de l'école. Là, nous donnons quelques repères historiques, et il ne manque pas, du débat concernant la reconnaissance et le rôle émancipateur de l'éducation nationale, Victor Hugo, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson. Nous abordons aussi quelques positionnements plus récents concernant l'école. Par exemple, Michel Perrault, quelle mixité pour l'école, ou bien Régis Debray, l'enseignement du fait religieux. La laïcité, les autres services publics, les tribunaux, les hôpitaux, les cimetières, la loi sur le divorce, etc. Ensuite, les associations cultuelles et culturelles, hein, là aussi, il faut être au clair. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation de la législation laïque en France. Alors, donc, ça serait très fastidieux de donner des exemples, hein, mais j'aborde tout de suite la deuxième partie de ce tome 2, les combats actuels de la laïcité concernant les entorses aux principes laïques. Même si les affrontements entre laïcs et anti-laïcs peuvent apparaître moins virulents qu'ils ne l'ont été au moment de l'adoption de la loi avant et après, justement, ils n'en sont pas moins réels aujourd'hui. Donc, les principales raisons, nous les analysons sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'ambiguïté de certains textes législatifs dans leur contenu et aussi dans leur application. Et là, ce sont toutes les dérives administratives. Et nous avons une deuxième grande partie, deuxième grand aspect, c'est tout ce qui concerne des raisons fondamentales qui concernent plus particulièrement la recrudescence des intégrismes de tous ordres, des intégrismes religieux, cléricalisme, dogmatisme, du mouvement sectaire, l'absence, le problème de, bien sûr, de l'absence d'émancipation des femmes en situation de subordination. Et l'intégrisme qui remet en cause, par exemple, l'universalité de la science. Donc là, j'irai un petit peu vite, mais je reprends donc la première partie les entorses aux principes laïques. Alors, il y a des textes législatifs qui sont analysés, hein. Je citerai, par exemple, le rapport Machelon, qui est pour une modification de la loi de 1905 et qui pour lequel Gérard Boucher signale à juste titre que le rapport final qui a été remis n'institue pas le cloisonnement entre l'État et les cultes, et il s'agit, dit-il, d'une véritable réécriture de l'histoire, hein. Si le débat nous amène de ce côté-là, Gérard Boucher en reparlera. Mais il y a les accords, vous le savez, là ça nous concerne tous, les les universitaires, les accords France-Vatican de décembre 2008, hein, qui portent atteinte à la délivrance des grades et des diplômes dans l'enseignement supérieur, que Martine Cerf a souligné, qui, vous savez que la déclaration de Bologne de juin 1999 sert de prétexte pour rompre cette règle constitutive de l'identité universitaire nationale, de notre identité universitaire nationale. Il y a aussi tout le débat et toutes les remises en... le problème du dualisme de l'école, là, c'est les textes de Gérard Delfaux, de Pénard-Ruiz, etc., qui constituent un réel danger pour l'existence même de l'école publique. Nous sommes carrés là-dessus. Il y a bien entendu tous les textes sur les dérives de l'administration, c'est-à-dire des textes d'élus qui demandent le rétablissement du délit de blasphème, les piscines réservées aux femmes, etc., etc. Vous pourrez les avoir dans le détail. Et il y a bien entendu, dans notre deuxième section du tome 2, les combats aujourd'hui concernant plus fondamentalement les remises en cause des droits de l'homme. Et là, nous repartons sur les valeurs. Alors, le cléricalisme, le fondamentalisme, le communautarisme, les sectes, bon, et là, nous sommes, je pense, je vous donne un exemple contre les dogmatismes, eh bien, c'est la proposition de loi visant à interdire la banalisation du blasphème religieux par voie de caricature, c'est la proposition de 2006 de Éric Raoul, député. Vous avez énormément de propositions de loi rédigées à l'heure actuelle par des parlementaires, je le dis, de droite, qui ont visé à faire figurer ce délit de blasphème dans la législation nationale. Et donc, nous proposons évidemment tout de suite des réactions. Alors là, la réaction, c'est Jean Mélenchon qui attaque sur ce fameux droit au blasphème. Contre les dogmatismes. Alors, contre les dogmatismes, je vais être aussi relativement courte, parce que hier, nous avons eu un exemple très intéressant à propos de la science. Nous abordons, bien entendu, le problème des connaissances scientifiques qui fait partie du débat sur la laïcité. Le créationnisme et les mouvements sectaires souhaitent mettre à l'honneur et sur le même plan relativisme culturel et relativisme scientifique au détriment de la méthodologie du raisonnement scientifique et de l'universalisme de la raison. Hein ? Rappelez-vous ce qu'a dit Pénard-Ruiz hier, on ne peut pas fonder scientifiquement la science, mais on peut fonder la raison. Hein ? C'est quand même intéressant. Et les sciences, Véronique Leru, les sciences, hier encore, je suis désolée pour ceux qui n'étaient pas là, les sciences sont laïques, ah non, c'est le Lecointre lui, les sciences sont laïques animées par l'universalisme des savoirs. Hein ? Je les répète. Alors, il y a des textes de Leru, il y a des textes de Lecointre, et il y a un texte que j'ai déjà signalé hier, mais je tiens à le redire, texte de Fouzia Tcharchi, physicienne, qui lutte contre la censure des sciences en Tunisie et la tentative de mettre la science en conformité avec les textes sacrés. Elle dit, je la cite, « Je suis, dit-elle, pour la diversité des cultures. » Alors, multiculturelle, ok, c'est une réalité. Mais je suis pour l'universalité des valeurs. Et quand on lui interdit de faire une partie de son programme d'astrophysique parce que ce n'est pas en conformité avec les textes sacrés, eh bien, il ne faut plus être dans le déni. Voilà. Donc, vous l'avez compris, nous sommes là dans le militantisme. Bien sûr, militantisme pour l'émancipation et l'égalité des femmes. Hein ? Alors là, la laïcité, on a eu une occasion de le dire, Martine Cerf en a parlé, c'est une conception de la relation entre les hommes et les femmes qui se considère comme égaux, relation d'échange, de partenariat et non de domination. Avec la laïcité se joue une recomposition des normes et des valeurs des relations sexuées. Plus généralement, la laïcité devrait permettre de mieux situer, là je cite un peu le texte, hein, je m'en excuse, la question de l'égalité des sexes et de ne plus ignorer la contradiction entre l'idéal démocratique et la subordination du statut féminin, cela sous le fallacieux prétexte que la différence sexuelle, pour les naturalistes, hein, se doit d'organiser les relations conjugales et parentales. Alors, nous allons avoir des textes, on peut commencer avec Victor Hugo, bien entendu, qui a été merveilleux pour défendre le statut de la femme, mais il y a le texte de Mathilde Dubessé, l'engagement des femmes dans la laïcité, qui fait une approche historique très très intéressante. Il y a les textes de Annie Leschenier sur l'hypothèse du genre, afin de ne pas s'en tenir à la proclamation de l'égalité de droit de façon abstraite, comme il a été dit hier. Hein. Il y a des textes de Mireille Borins concernant la répartition de la parole dans la classe, etc. Mais ça sera plutôt pour le tome 3. Donc voilà, hein. N'oublions pas que les Françaises sont devenues des citoyennes qu'en 1944, hein. Donc, et par crainte du retour des cléricaux, vous le savez. Hein. Bon, il fallait faire un développement là-dessus. Voilà, j'arrive à la conclusion. Et j'ai encore mon tome 3. Hein, mais ma compliance, je vais essayer d'aller vite.
Quelle heure est-il ?
Oui, c'est étonnant qu'on ne m'ait pas arrêté encore. Bon, alors, nous sommes pour... je te crois. Nous sommes pour un au-delà de la laïcité politique. Une laïcité qui non seulement respecte la loi de 1900, c'est ma conclusion, hein, sépare les religions de l'État, mais qui s'engage plus à fond dans une laïcité d'autonomie, d'émancipation au service des valeurs universelles. Et là, je tiens à le dire, parce que je suis dans une association, l'OLPA. On a commencé à me dire, Chantal, la laïcité, c'est la séparation. On ne rentre pas dans le détail. On ne fait rien passer avec une loi de séparation. La loi ne peut être notre seul code commun pour défendre la laïcité face au danger et de la déviance de la notion de communauté à celle de communautarisme et de celle de diversité culturelle à celle de culturalisme politique. Voilà. Donc, la laïcité comme espace et comme temps d'émancipation, nous interrogeons par exemple la notion de neutralité. Qu'est-ce que la neutralité ? Hein ? De quelle neutralité parle-t-on ? Hein ? À l'école publique qui est le lieu par excellence, nous a été dit hier, où l'on s'interroge sur les principes de la laïcité. Elle est aussi, dit Catherine Kinsler, une institution philosophique où l'on s'instruit pour apprendre à être l'auteur de ses pensées et de ses actions en libérant chacun du recours à une autorité extérieure. Ça serait quand même pas mal de se le rappeler. Il y a aussi, là, quand on est du côté de Michel Onfray, je sais qu'il il n'est pas toujours bien vu dans les milieux qui défendent la laïcité, mais il y a, à juste titre, en mettant à égalité toutes les religions et leurs négations, comme nous y invite une certaine conception de la laïcité, au nom de la neutralité. On avalise le relativisme, égalité entre la pensée magique et la pensée rationnelle, entre la fable, le mythe, et le discours argumenté ou scientifique. Donc, là aussi, un bémol à cette neutralité. Donc, il y a nécessité de réfléchir sur les fondements philosophiques ou moraux de l'idéal laïque. C'est ce que nous cherchons à faire avec Gérard Boucher. Une morale laïque trop faible, trop consensuelle, pour contrebalancer le réinvestissement des religions dans la sphère publique, ou une morale laïque trop forte, trop dogmatique, trop particulariste, là évidemment je vise le Front National, plus ou moins au service des rapports de force idéologiques du moment. Hein, voilà. Donc nous sommes pour justement une laïcité, un concept politique fondateur grâce auquel le culturel ne tue pas l'universel. Alors, eh bien oui, vous l'avez compris, la laïcité historique et démocratique, elle est au service des droits de l'homme et au service de ce que j'appelle une transcendance immanente. Je l'avais trouvée, mais Michel Onfray a édité avant moi le mot. Alors, je vous donne le sens de ma transcendance immanente. La laïcité devrait promouvoir une transcendance immanente, à savoir une éthique temporelle qui concerne les humains, toutes catégories confondues, hommes et femmes, croyants, non-croyants, et une fraternité universelle qui concerne toutes les nations et tous les peuples. Alors, vous l'avez compris, on va être obligé de parler de la laïcité. Marielle Raspail n'est pas là, mais on va en parler de la laïcité dans le reste du monde. Hein, en terre d'islam, bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. La laïcité est un idéal politique et moral qui suppose... Alors là, ça, c'est un peu moins... qui vais l'assumer là en le disant, un engagement de chaque citoyen. La militance laïque est tout aussi indispensable que la militance démocratique. Les Spinoza, les Rousseau, les Condorcet, les Olympe de Gouges, Plus récemment, Jean Jaurès, Lucie et Raymond Aubrac, Simone de Beauvoir, Elisabeth et Robert Badinter, tous défenseurs des droits et du prestige de la pensée, se sont efforcés de nous faire comprendre que on ne naît pas citoyen, on le devient. On ne naît pas résistant et libre, on le devient. On ne naît pas femme ou mère, on le devient. Eh bien, au final, notre guide pédagogique, dans sa troisième partie, a pour objectif, ou peut assumer en tout cas le slogan, « On ne naît pas laïque, on le devient ». C'est le défi que doit prendre ce colloque, hein, un enjeu de transmission, un enjeu essentiel qui engage un positionnement politique, éthique. Politique.